Bonsoir, bonsoir. 19h-21h, la dernière émission de Footfall pour cette saison. On reprendra cette émission, bien sûr, notez bien sur vos agendas, le 14 septembre prochain, dès 19h. Et ce soir, en première partie, nous accueillerons notre ami GG, qui va nous conter cette belle histoire. Je sais que vous êtes perdu entre corsaires, flibustiers, boucaniers, pirates et autres forbans. Oh là là, c'est pas compliqué. GG vous donnera la recette du bon pirate comme Barbe Noire ou d'un bon corsaire connu comme Robert Surcouf. Vous saurez tout sur ces gens dans quelques minutes. Bienvenue sur cette 641e émission de Footfalk. On démarre cette émission Footfall comme à l'accoutumée avec un Trian sorti de l'album Rue Madouf qui est sorti en 2011. Trian, et on retrouve tout de suite après GG à l'antenne de Footfall.
Sur un des épées d'Hervo, j'en mettra à France.
Ça va être sous bétesté, nous, va aînés dans nos blancs.
Galvet me zan avec capriole et pieds droits d'argile. Sous les trois arbres, c'est pieds droits d'argile, mesdames.
Galvet me zan avec capriole et pieds droits d'argile. Sous les trois arbres, c'est pieds droits d'argile, mesdames.
En Olaf au Pouguet,
au Fren Sébastien Arbal, par un tableau lazette.
Pétrache au Moleuse et Capriole et pieds droits d'argile. Besoin de trop pas de morse et pieds droits d'argile, mesdames.
Pétrache au Moleuse et Capriole et pieds droits d'argile. Besoin de trop pas de morse et pieds droits d'argile, mesdames.
La 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 la
Une émission spéciale corsaire, flibustier, boucanier, pirate et autres forbans. Si vous ne savez pas qui sont ces personnages, ce soir nous accueillons de nouveau Gégé dans notre émission pour nous conter cette belle histoire. Bonsoir Gégé.
Bonsoir à tous.
Alors ce soir, pour cette dernière émission, on va nous emmener en bord de mer, dans la mer et même parfois un peu sur les côtes par rapport aux personnages que nous allons visiter. Alors par quoi commençons-nous et pourquoi cette émission spéciale corsaire, flibustier, boucanier, pirate et autres forbans?
Alors pourquoi cette émission ça fait suite, je pense, à une émission précédente qu'on avait faite sur les champs de marins. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire plus un petit zoom sur ce qui est devenu maintenant beaucoup de folklore, bon, qui a eu beaucoup de succès, notamment avec les films sur Pirates des Caraïbes, etc. Donc ça pouvait être intéressant de remettre un petit peu de vérité historique là-dedans et puis de parler des différentes chansons qui pouvaient célébrer ou critiquer les pirates, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est qu'on s'est retrouvé aujourd'hui.
C'est une bonne idée. Puis on va partir tout de suite avec les définitions justement de ces personnages. C'est vrai que c'est compliqué quand on ne connaît pas qu'est-ce qu'un corsaire, un flibustier ou un boucanier, un pirate. C'est assez complexe quand même.
Surtout que ça change avec le temps et ça change pour un même individu en fonction des opportunités ou pas. Alors d'abord, la piraterie ou ce genre de choses, quelle que soit la manière dont on l'appelle, ça a toujours existé. Hein. Je pense que le premier qui a voulu sans doute emmener des noix coco à l'île voisine, il s'est fait poursuivre par quelqu'un d'autre qui voulait lui piquer en mer et qui voulait récupérer les noix coco pour lui. Donc je pense que c'est une histoire qui est vieille comme la marine, hein, la piraterie. Ça existe. Il y a des éléments historiques, notamment avec Jules César, qui s'est fait rançonner par des pirates et qui raconte ça dans ses mémoires. Ce qu'on appelait les barbaresques d'antan, c'est-à-dire les Ottomans et les Maures dans la Méditerranée. On pense qu'ils ont à peu près capturé entre 1 million et 1 500 000 personnes entre le 16e et le 19e siècle, dont beaucoup ont fini comme esclaves, ont été vendus comme esclaves. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On va se concentrer un peu plus sur effectivement les corsaires, les pirates, les flibustiers, les boucaniers. Alors les corsaires, c'était des gens qui avaient ce qu'on appelait une lettre de marque, c'est-à-dire que le prince de l'époque ou le roi leur donnait l'autorisation pour une période limitée et sur une cible limitée, par exemple les bateaux anglais dans telle partie du monde ou les bateaux hollandais. Donc la possibilité d'aller récupérer ces bateaux, les piller et ramener l'argent qui était partagé entre le prince et puis le corsaire. Les flibustiers, ça vient essentiellement des Hollandais lorsqu'ils ont déclaré leur indépendance. Ça vient d'un mot en hollandais qui signifie faire soi-même son butin. C'est-à-dire, c'est les gens qui cette fois-ci n'avaient plus d'autorisation, mais le faisaient tout seul. Les boucaniers, c'est un peu particulier aussi. C'est plutôt les Caraïbes. Dans la mesure où dans les Caraïbes, il y a toujours eu lorsque les Indiens ont accepté les Blancs, il y a toujours eu une espèce de tradition qui était de faire sécher la viande, qu'on appelait ça le boucan. Donc en fait, c'était des espèces de grands grilles sur lesquels on mettait la viande, et c'était de la viande boucanée. Et donc les gens qui faisaient ce métier, on les appelait des boucaniers. Mmh. Et comme ça nourrissait pas forcément son homme, ils étaient un petit peu aussi pirates, ou ils allaient voler quelques trucs. Enfin, il y avait pas mal de difficultés. Donc voilà pour les différentes définitions à grands traits.
J'avais cité en début d'émission des gens connus, enfin des personnes comme pirate. On a toujours cette image de Barbe Noire qui était un pirate, un des plus connus.
Hein. Oui, c'était. Alors c'était pas forcément d'ailleurs le plus cruel ou celui qui a le plus de succès, hein, mais effectivement Barbe Noire avait une particularité qui est que c'était d'après les descriptions, c'était un colosse qui s'était laissé pousser les cheveux et la barbe de manière on dit extravagante, et extrêmement longue, et il avait comme comme technique finalement de mettre des papillotes dans ses cheveux et dans sa barbe, mm-hmm. et il mettait de la poudre à canon, il allumait ça. Donc quand il passait à l'action, quand ils arrivaient sur un bateau, on voyait arriver cette espèce de diable entouré de fumée, le sabre à la main, ce qui fait que il a quelquefois récupéré des bateaux sans même combattre par la simple apparition de l'individu.
Donc, alors, si j'ai bien écouté depuis le début de cette émission, donc Barbe Noire le pirate, donc lui, il agit donc pour son propre compte. Hein.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est donc une des figures des Caraïbes, parce qu'il y a des pirates un peu partout, bien sûr, hein, mais les Caraïbes, c'est ça qui a donné justement tout le folklore qu'on connaît aujourd'hui.
Et donc un corsaire aussi connu, donc Robert Surcouf,
ouais.
Un des plus connus quand même.
C'est un des plus connus avec Duguay Trouin ou Jean Bart. Jean Bart, c'est Dunkerque. Hein, mm-hmm. Duguay Trouin, c'est Saint-Malo. Surcouf, c'est également Saint-Malo. Sachant qu'il y a quand même un siècle et demi qui les sépare, hein, puisque Surcouf a surtout été là dans les années 1750, en 1760, 1760 pardon, 1800. Et justement, il y a une chanson qui célèbre ses exploits, ou un de ses exploits, qui s'appelle le 31 du mois d'août. Généralement, on la connaît comme une chanson à boire, mm-hmm. mais ça célèbre sa victoire sur un bateau qui s'appelle le Kent, dans le golfe du Bengale, le 31 août 1800.
Les corsaires, les flibustiers, les boucaniers, les pirates, restez avec nous si vous adorez ce monde, et on fait une petite pause musicale, avec le 31 du mois d'août.
Le 31 du mois d'août,
le 31 du mois d'août,
on vit venir sous le vent à nous,
on vit venir sous le vent à nous,
une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots, c'était pour aller à Bordeaux.
Buvons un coup, buvons en deux. À la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et même pour le roi d'Angleterre, il nous a déclaré la guerre.
Le commandant du bâtiment,
le commandant du bâtiment,
fit appeler son lieutenant,
fit appeler son lieutenant.
Lieutenant, te sens-tu capable? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour prendre l'anglais à son bord?
Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et bien pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.
Lui répondit, capitaine, oui, faites branle-bas à l'équipage. Chevaille, c'est notre pavillon qui restera haut, nous le jurons.
Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi.
Gabier, ferme, matelot, brave canonnier, Mousse et Petiot.
Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et bien, pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre,
dire love pour love en arrivant.
Vive la couleur en arrivant,
c'est l'abordion.
par son avant. Je l'aborions par son avant, à coups de hache et de grenade. De pics de sable, de mousqueton, en 3, 5, 7, je l'arrivions. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et bien pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Que dira-t-on des grands rafiaux? Que dira-t-on des grands rafiaux? À Londres et à Bordeaux, à Brest, à Londres et à Bordeaux, qu'a laissé prendre son équipage. Par un concert de Licanon, lui qu'en avait 36 bons. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et même pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.
Spécial corsaire, flibustier, boucanier, pirate, avec GG sur Foot Folk, de la réalité à la fiction, l'image romantique du pirate.
Oui, alors c'est vrai que aujourd'hui on a une image qui est plutôt romancée, voire romantique du pirate. Notamment, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est grâce aux Pirates des Caraïbes, mais aussi grâce à un livre qui a rendu les pirates très célèbres, que je pense tous les adolescents ont lu ou connaissent. C'est le livre de Stevenson, qui s'appelle L'île au trésor, hein, qui est un livre qui a été, je crois, qui a paru en 1883 de mémoire. Et c'est là où est né progressivement, à partir de là, qu'est né progressivement le stéréotype de la jambe de bois, du crochet, du bandeau sur l'œil, le perroquet sur l'épaule. Et l'oreille percée d'un
diamant, une boucle d'oreille.
Essentiellement. D'ailleurs, au sujet de la boucle d'oreille, il y a deux explications qui circulent concernant cette boucle d'oreille. La première, c'est en fait, c'était le moyen pour le marin en général, mais le pirate en particulier, d'avoir de quoi payer son cercueil le jour où il mourait. Hein, puis on récupérait ça, on le vendait, et comme ça, il était à peu près assuré d'avoir un cercueil. Ça, c'était une première explication. La deuxième, c'est que pendant longtemps, on a cru que ça permettait d'améliorer la vision, la vue. Et que donc, de percer l'oreille, ça permettait de voir plus loin ou de voir plus précisément. Donc, c'est deux explications qui sont données pour l'histoire de la boucle d'oreille du marin.
Moi, j'aime bien la première version pour payer son...
Alors, il y a dû avoir de ça, effectivement. Ouais. Quoique, bon, j'imagine que quand on trouvait un type allongé avec sa boucle d'oreille, on piquait la boucle d'oreille, je ne suis pas sûr qu'on lui faisait l'enterrement décent.
On l'enterrait dans le sable.
On le balançait à l'eau, effectivement. Ouais. Alors, on parlait des corsaires. C'est vrai de tous les corsaires, qu'ils soient anglais, qu'ils soient hollandais, qu'ils soient français. C'était des corsaires pour celui qui les employait, mais c'était des pirates pour les autres. Hein. C'est évident, le corsaire des uns, c'est le pirate des autres. C'est sûr que des gens comme Surcouf, par exemple, n'étaient pas considérés comme par les Anglais comme un corsaire, mais vraiment comme un pirate, parce qu'il venait les voler. Quoi. Donc, donc c'était quand même des choses un peu particulières. En plus, compte tenu de l'instabilité de toute cette époque, on va parler un peu de la Caraïbe et de tout ça, les gens passaient d'un statut, si j'ose dire, à un autre. Hein. C'est-à-dire que pendant un temps, ils avaient un boulot en tant que corsaire, après ils n'avaient plus de boulot, donc ils continuaient à faire ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire à raisonner des bateaux, récupérer des trucs, et ils le faisaient pour leur propre compte. Hein. La seule différence, c'est que lorsqu'on était convaincu de piraterie, généralement on était pendu. Hein, donc ça rigolait pas. Quoi. Donc ce qui veut dire aussi qu'ils avaient une férocité relativement proportionnée, dans la mesure où ils savaient que eux, s'ils se faisaient prendre, c'était fini pour eux. Donc ils avaient tendance à être relativement brutaux, effectivement.
Et on les pendait court pour économiser la corde, c'est ça ?
On les pendait court pour éviter que, surtout, ils traînent par terre. Quoi. C'est ce qui faisait un peu désordre sur les ponts. Donc effectivement, on les pendait haut et court. Ouais. Alors c'est vrai que jusqu'à à l'époque de Stevenson et puis de l'île au trésor, les pirates c'était plutôt des gens qui étaient craints et qui créaient un peu la terreur chez les gens qui naviguaient, parce que ils savaient très bien quand on rencontrait un pirate, généralement ça se passait relativement mal, surtout quand ils hissaient le pavillon noir, le fameux pavillon noir, le Jolly Roger, qui a une signification très simple. Qui veut dire pas de quartier, c'est-à-dire lorsqu'on arrive, il n'y en a pas un qui survivra, quoi. C'est ce que ça voulait dire. Donc c'était quand même un peu angoissant comme type de choses.
Ah, parce que pas de quartier, je pensais que quartier c'était le grand navigateur, que ça avait un rapport avec
absolument,
quartier.
Absolument, oui, c'est pas ça du tout. Et ce que les Anglais appellent le Jolly Roger, donc le pavillon noir, ça vient d'un mot français qui est le Joli Rouge. C'est la déformation d'une expression française de boucanier français qui hissait le pavillon rouge qui signifiait même chose, combat à mort, quoi. Donc pas de prisonniers et pas de quartier. Donc et c'est devenu donc en anglais le Jolly Roger.
On tue tout le monde, quoi.
Donc effectivement aujourd'hui on a une image plutôt sympathique du pirate. En plus il y a toute cette histoire des trésors, des prétendus des trésors qui sont cachés quelque part, où on voit toujours
des
un pirate
cartes,
en train de avec des cartes, etc. On n'en a pas retrouvé beaucoup d'ailleurs de ces trésors. Souvent ils avaient été dépensés ou ils avaient coulé avec les bateaux concernés. Donc on a du mal à les retrouver si effectivement il y en a. Il y en a un le trésor du capitaine Kidd qui lui est toujours cherché par un certain nombre de gens à travers le monde. Donc ça fait 2 siècles maintenant qu'on cherche son trésor. Finalement, que ce soit dans la littérature, que ce soit au cinéma, aujourd'hui c'est devenu une image plutôt sympathique. C'était pas du tout le cas à l'époque.
Que vient faire Robinson Crusoe donc
Robinson Crusoe, c'est un peu différent. C'est-à-dire que Daniel Defoe, l'écrivain qui a raconté l'histoire de Robinson Crusoe, a été pendant longtemps considéré comme la référence en matière de pirates. Donc c'est quelqu'un qui a écrit deux gros ouvrages sur les pirates et qui a fait un peu leur histoire. Et c'est en partie grâce à lui que l'histoire de gens comme Barbe Noire, mais aussi comme le Lenoir, comme un certain nombre d'autres personnes, personnage de ce type-là est resté un peu dans les mémoires. Donc c'est pour ça que je l'ai cité, parce qu'il était et il est toujours d'ailleurs une référence en termes de une référence historique en termes de pirates.
Alors de la réalité à la fiction et l'image romantique du pirate et aujourd'hui alors.
C'est les pirates, on les revoit peut-être un petit peu comme on devait les voir au XVIe ou XVIIe siècle, ou au XVIIIe, notamment au large des côtes de Somalie. On voit plus du tout le pirate de manière très romantique. On pense que c'est des gens qui viennent voler des choses qui ne leur appartiennent pas, et donc on leur fait la chasse, on les tue, etc. Et eux-mêmes donc essayent de, aujourd'hui moins, puisque on est d'une époque qui ne tolère beaucoup moins ça, mais essaye moins de tuer les gens, mais essaye de trouver des rançons, donc de récupérer de l'argent.
Un peu plus à l'eau de rose, comme Disney l'exploite, c'est ça ?
Alors, ouais, bien sûr, c'est devenu très, très éloigné de la réalité maintenant. C'est vrai que c'était pas du tout comme ça que ça se passait, c'est sûr. Et c'est vrai de ça, c'est vrai aussi de Peter Pan, Peter Pan et le capitaine Crochet, par exemple.
Ah oui,
c'est aussi des trucs qui sont très, très déformés par rapport à la réalité.
Quoi dire encore sur cette phase de la réalité à la fiction, l'image romantique du pirate que...
Rien de plus. Juste un dernier point. Il y a une chanson je sais plus lequel, du Pirate des Caraïbes, qui est 15 marins sur le bahut du mort. C'est en fait tiré de l'île au trésor. Ça. C'est-à-dire dans le bouquin de l'île au trésor, il y a juste le couplet qui a été écrit par Stevenson. Et puis ensuite, donc il y a eu une écriture complète d'un texte qui a été fait dans les années 1870, quelque chose comme ça. Et la musique a été pour la première fois produite à Broadway en 1901. Donc c'est une vieille histoire. Disney n'a fait que reprendre, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres choses, il n'a fait que reprendre des trucs existants et puis les adapter à une sauce acceptable ou plus moderne, quoi.
Et là, pour cette version-là, c'est 15 marins chantés par Michel Tonnerre.
Tout
et d'ailleurs,
à fait.
Et d'ailleurs, cette chanson a été écrite par Michel Tonnerre.
Alors, la version française a été écrite par Michel Tonnerre. Oui,
on oublie souvent de le citer, mais c'est vrai qu'il a quand même écrit beaucoup de chants de marins, et surtout cette chanson qui est connue et qu'on chante partout dans les bals folk, dans les soirées celtiques,
absolument,
etc.
Absolument.
On écoute Michel Tonnerre ?
On écoute Michel Tonnerre.
C'est toujours avec GG, spécial corsaire, flibustier, boucanier, pirate et autres forbans.
Capitaine Flynn en colère est revenu du royaume des morts pour hanter la cache au trésor.
15 marins sur le bahut du mort, yop là-haut une bouteille de rhum. À boire et le diable avait réglé leur sort, yop là-haut une bouteille de rhum.
Essaye un peu de le contrecarrer et tu iras où tant d'autres sont allés. Quelques uns au vergue, quelques uns par-dessus bord, tout le monde pour nourrir les poissons d'abord.
15 marins sur le bahut du mort, yop là-haut une bouteille de rhum. À boire le diable et régler leur sort, yop là-haut une bouteille de rhum.
Tous nous finirons par danser la gigue, la corde court qu'elle est pendue. Toi, jeune Forrest, et toi, jeune Merwig, si près du gibet que j'en ai le bout tordu.
15 marins sur le bahut du mort, yop là-haut une bouteille de rhum. À boire et le diable avait réglé leur sort, yop là-haut une bouteille de rhum.
Casmarin avec Gérard, c'était de la réalité à la fiction, l'image romantique du pirate.
Oui.
Corsaire, flibustier, pirate au XVIe siècle et XVIIe siècle. Guerre et pillage sur mer.
Oui, c'était le moyen pour beaucoup de royaumes à l'époque de régler leurs affaires. C'est-à-dire, même quand ils n'étaient pas en guerre, c'était le moyen de continuer la guerre par d'autres moyens. Donc, de faire donc, soit par le biais des lettres de marque et des corsaires, d'embêter un peu les autres et puis de récupérer un peu d'argent, soit en ce qui concerne notamment les Espagnols, le moyen de récupérer une partie des richesses que les Espagnols pillaient dans le Nouveau Monde de l'époque, dans les Indes occidentales, comme ils les appelaient, c'est-à-dire Christophe Colomb, fin du 15e siècle, 1492, je crois, découvre les Amériques, et il découvre aussi toute la richesse qui y est associée, avec d'abord les empires aztèques, etc. Et il y a une chose qui est relativement fondamentale pour la création justement de tout ce qui est piraterie, etc. C'est que les Espagnols et les Portugais se sont mis d'accord pour se partager le monde à cette époque-là. Il y a un traité, donc fin du 15e siècle, 1494 de mémoire, qui sépare le monde en deux, c'est-à-dire quand on regarde une planisphère, quand on regarde le monde, ils ont tiré une ligne comme ça, un méridien, quoi, du nord au sud, qui partageait le monde en deux. Du côté ouest, ça appartenait aux Espagnols, et du côté est, ça appartenait aux Portugais. Ce qui, en fait, les Espagnols ont essentiellement cherché à protéger ce qu'ils avaient découvert, et ils connaissaient déjà, ou ils pensaient qu'il y avait des richesses importantes, et ils ont bataillé surveiller, notamment jusqu'à ce que le pape entérine cet accord, ce qui fait que tous les princes de l'époque ne pouvaient plus revenir là-dessus. Donc ça a fortement généré justement ou alimenté la piraterie dans les Caraïbes, parce que les autres, c'est-à-dire les Hollandais, les Anglais, les Français, n'avaient plus accès à ces richesses. Donc un des moyens de les récupérer, c'était d'aller de soudoyer finalement des gens pour aller le faire de manière un petit peu illégale, quoi.
Malin.
Et c'est donc effectivement une conséquence de ce fameux traité de Tordesillas. Et l'autre conséquence, c'est que comme la géographie à l'époque n'était pas très claire, pas très précise, il y avait un bout de l'Amérique du Sud qui dépassait du côté est. C'est ça qui a donné le Brésil, parce que comme finalement il était du côté est, les Portugais y avaient droit. Mm-hmm. Et c'est comme ça que les Portugais sont arrivés, et ce qui explique que l'ensemble de l'Amérique du Sud, sauf le Brésil, soit de langue espagnole, puisque ça leur a appartenu. Mais que par contre, le Brésil, lui, comme il était du mauvais côté de la frontière, j'allais dire, entre les Espagnols, il est devenu portugais, et c'est donc le plus grand pays de langue portugaise aujourd'hui dans le monde. Mm-hmm. Donc, c'est donc la résultante évidente d'abord de l'instabilité politique, religieuse. Il y avait aussi des guerres de religion à l'époque, il y avait quand même pas mal de difficultés. Les Pays-Bas étaient, qu'on appelait à l'époque les Provinces Unies, les Pays-Bas se sont soulevés contre l'Espagne, ils ont pris leur indépendance, l'Angleterre se battait contre la France contre le reste du monde, etc. Donc il y avait une très grande instabilité. Donc beaucoup de gens qui étaient embauchés ou qui étaient récupérés et qui se retrouvaient à un moment donné, à la fin d'une bagarre ou à la fin d'une campagne, un petit peu sur le sable, si j'ose dire, c'est-à-dire abandonnés à leur propre sort, et qui devenaient donc soit boucaniers, donc ils commençaient par faire du trafic de viande, etc., soit carrément pirates. Donc c'est ça qui a alimenté aussi. On pense que dans les années glorieuses, des années 1600, il y avait entre 7000 et 10000 pirates de toutes sortes et de tout calibre dans les Caraïbes. Rien que les Caraïbes, quoi. Donc ça représentait quand même du monde. Alors il y avait un taux de mortalité qui était quand même relativement élevé, ce qui fait que tout ça se renouvelait vite. Mais il y avait quand même effectivement beaucoup de monde. Il faut dire qu'il y avait des richesses absolument extraordinaires.
Justement, sans perdre le fil de notre histoire, une question internet, on parle de richesse, on parle de choses comme ça, les gens qui se volaient entre eux, mais qu'est-ce qu'on volait le plus? Alors, est-ce que c'était, on demande, est-ce que c'était l'or ou est-ce que ça pouvait être aussi des épices ou des choses comme ça?
Tout ce qui était marchand, tout ce qui avait une valeur.
Alors, tout ce qui était sur les bateaux qui pillaient, quoi.
Tout ce qu'ils pouvaient trouver sur les bateaux. Alors, il y avait bien sûr l'or qui venait des Aztèques et puis des Incas. C'est sûr que les Espagnols avaient fait une razzia, ils ont trouvé là des richesses absolument extraordinaires. Comme ça se transportait difficilement, c'est quand même des matériaux lourds, c'est pas facile. Donc généralement ils étaient stockés dans un certain nombre de villes fortifiées sur la côte et on attendait qu'une flottille de bateaux vienne les chercher. Donc ils stockaient des quantités d'or absolument extravagantes jusqu'à 6 mois ou 1 an. Donc évidemment ça attisait énormément de convoitises, mais ça pouvait être aussi des épices, ça pouvait être du bois, il y a les bois précieux aussi,
des cartes avec des trésors dessus, potentiels.
Oui, ça c'est la légende plus qu'autre chose, mais ça peut être aussi, il y a un pirate qui a réussi à mettre la main sur un bateau qui transportait la fille du grand Mongol. Donc, ce brave homme donc a trouvé une richesse en pierres précieuses absolument extraordinaire, qu'il a eu d'ailleurs du mal à vendre parce que tout le monde savait que c'était des trucs qui étaient volés. Et donc, il n'a pas tiré beaucoup d'argent par rapport à ce que ça valait, quoi.
Et justement, on rebondit en direct à cette émission en me demandant aussi si... il leur arrivait de prendre des êtres humains qui se trouvaient dans les bateaux, soit des galériens, soit justement des filles ou des gens comme ça.
Alors, effectivement, ça leur arrivait. Ils ne savaient pas toujours quoi en faire, parce que finalement, leur objectif, ils étaient quand même sur des bateaux qui étaient relativement légers. L'objectif des pirates, c'était d'arriver le plus vite possible, d'arraisonner le bateau, de le prendre, de récupérer ce qu'il y avait à récupérer, et puis de ne pas s'embarrasser avec des prisonniers. Donc, d'où justement la notion de pas de quartier, etc. Alors, il y avait, ceci étant, effectivement, des demandes de rançon, ça c'est pour les officiers ou pour les gens les plus riches, et ils ont essayé de faire un petit peu de trafic d'ébène, c'est-à-dire de vendre des esclaves finalement. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'ils avaient vraiment. Ils n'étaient pas très très bien placés pour le faire, quoi. Hein. Donc souvent les esclaves qui libéraient, les esclaves noirs qui libéraient, soit s'égayaient dans la nature, soit les rejoignaient. Il y a eu pas mal d'anciens esclaves noirs qui sont devenus pendant un temps pirates à leur tour, parce que bon, c'était la seule solution qu'ils avaient.
Pour être libre aussi.
Pour être libre, effectivement, oui. Oui.
Et puis bon, ça se vendait pas bien par rapport à l'or ou par rapport à ce qu'ils pouvaient trouver
dans
les
bateaux. Tout à fait. Et puis c'était quand même c'était considéré comme une marchandise à l'époque, hein, donc c'était quand même considéré comme une marchandise difficile à négocier, parce que il fallait se mettre en contact avec des planteurs ou des gens qui avaient et c'est des gens qui étaient extrêmement méfiants quand même.
Donc, le cours de l'être humain n'était pas
ne valait pas le cours de l'or ou de l'argent, c'était évident, quoi. C'était évident. Donc il y avait des sommes colossales, mais ces sommes étaient souvent dépensées aussitôt qu'elles étaient gagnées, puisque finalement les pirates, on en parlera quand on parlera un peu de leur vie, souvent, d'abord ils vivaient un peu au jour le jour, parce qu'ils savaient pas très bien si le lendemain ils allaient être mutilés, pendus, noyés, enfin bon. Et d'autre part, quand ils rentraient dans un port ami ou dans un de leurs repères, ils avaient des tavernes, il y avait des filles, il y avait des tas de gens qui étaient là pour leur piquer le fric qu'ils avaient gagné, quoi, c'est sûr. Donc, et ça montait relativement cher, effectivement. Donc ça, c'est sur les Caraïbes, ça a été pendant deux siècles à peu près, hein, l'âge d'or, enfin, entre guillemets, pour les pirates, l'âge d'or pour eux, avec toute une série de gens dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, quoi, qui ont défrayé la chronique, qui faisaient peur à tout le monde à l'époque, hein. Il y avait des gens comme l'Olonois, je pense on en parlera un petit peu aussi, qui terrorisaient absolument les gens. C'était des gens extrêmement cruels, hein. Donc, et en ce qui concerne donc les corsaires, on avait un peu de mal, comme je disais tout à l'heure, à les distinguer, quoi, hein, parce que vu du côté des Espagnols, bon, tout ça, c'était quand même des gens qui venaient leur piquer leur truc, donc bon, ah oui, c'était quand même des pirates et rien d'autre. Et à ce propos, donc, il y a une chanson que j'ai trouvée assez rigolote, qui s'appelle Le Grand Coureur, qui raconte justement la vie d'un corsaire, hein, ou la vie à bord d'un corsaire. Hein, donc, c'est une chanson qui date de quelques siècles maintenant. De grands coureurs.
Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il s'en va en croisière pour aller chasser l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il cinglait bas bras-mur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur sa mâture, là le corsaire en ponton.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué.
Et bougrement relagué, tandis que l'ouvrage avance, on signale par tribord un navire d'apparence amantelé de sabord.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, gué.
C'était un anglais vraiment à double rangée dedans, un marchand le mot si vite, mais le français n'a pas peur, au lieu de brasser en fuite. Nous le rangeons à l'honneur.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons
les gars, gué. Les poulets pleuvent sur nous lui rendons coup pour coup, pendant que la barbe en fume va nos braves matelots. Dans un gros bouchon de brume, il nous échappe aussitôt.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué.
Au bout de six mois, on put se monter à trois. Un navire plein de patates, plus qu'à moitié chaviré. Un deuxième de savate et le dernier de fumier.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons.
Pour nous refaire des combats, nous avions à nos repas des courgalets, de la rance, du vinaigre au lieu du vin, du biscuit pourri. Et du camphre le matin.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons.
Pour finir ce
triste sort, nous voulons périr au port dans cette affreuse misère. Quand chacun s'est vu perdu, chacun selon sa manière s'est sauvé comme il a pu.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, moi.
Second sont sauvés sur un canon, le maître sur la grande ancre, le commis dans son bidon, à le sacré vilain camp, le voleur de rations.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, gué.
Il fallut voir le coq et sa cuisine et son croc, il s'est mis dans la chaudière comme un vilain pot au feu. Il est parti vent arrière, atterri au feu de Dieu.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, gué.
De notre horrible malheur, seul le calfa et l'auteur, en tombant de la grande lune, dessus le gaillard d'avant, a rebondi dans la corbuse, a crevé le bâtiment.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, gué.
Si vous touchez le cœur, ayez donc belle manière et payez-nous largement du vin, du rack, de la bière, et nous serons tous contents.
Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, moi. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, moi.
Une émission spéciale corsaire, flibustier, boucanier, pirate et autres forbans. Il nous dit tout ce GG ce soir, si vous le désirez. Rentrer dans cette belle histoire. On vous rappelle quand même que c'est la dernière émission de la saison, c'est la 641e émission déjà, et qu'on se retrouvera bien sûr à la rentrée avec de bonnes choses dans nos poches le dimanche 14 septembre à partir de 19h, donc notez bien cette date. Le dimanche 14 septembre, Food & Folk revient sur les ondes de Jéricho avec de plein de bonnes choses, parce que vous savez qu'on vous ramène toujours de bonnes choses. On sera du côté du Festival Interceltique de Lorient du 1er au 10 août prochain avec l'Irlande, le pays invité cette année. Donc notez bien aussi cette date, du 1er au 10 août du côté de Lorient, le Festival Interceltique de Lorient spécial Irlande avec beaucoup d'animations, beaucoup de belles choses et beaucoup de nouveautés pour la rentrée dans vos oreilles. N'oubliez pas le site de cette émission Food Folk, les www.folk57.com. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, bien sûr. Il suffit de taper Yves et plus loin Food Folk, tout en attaché. Yves, un peu plus loin Food Folk avec un S. Et vous serez bien sûr avec nous pendant ces émissions Food Folk. On retrouve Gégé tout de suite après cette pause pub.
Jéricho à Saint-Julien-les-Metz sur 102.
Food Folk sur Jéricho. C'est tous les dimanches en direct 19h-21h. Le rendez-vous des musiques traditionnelles folk. Avec toutes les nouveautés, tous les classiques, tous les événements dans la région et ailleurs. Food Folk, c'est à découvrir et c'est aussi des cadeaux. Food Folk, le dimanche, 19h-21h sur Jéricho, avec Yves Manet et toute son équipe.
Tout savoir sur les corsaires, les flibustiers, les boucaniers, les pirates et autres forbans, on retrouve GG dans cette émission Food Folk. La conquête du Nouveau Monde.
Alors effectivement, le Nouveau Monde, c'est les Caraïbes. Et pourquoi les Caraïbes? Pour deux raisons. Il y avait de la piraterie partout. Et comme on le disait en intro de l'émission, il y en avait sur toutes les mers du globe. Et il y en a malheureusement toujours sur toutes les mers du globe, même s'il est un peu moins sauvage qu'à l'époque. Alors les Caraïbes ont cristallisé vraiment les choses à cause de l'afflux d'or et d'argent que les Espagnols allaient chercher dans ce nouveau monde, hein, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc c'était des sommes absolument colossales, donc ça attirait bien sûr des convoitises. C'est aussi là qu'il y a eu les caractères, les individus les plus pittoresques de cette histoire, les épisodes les plus sanglants aussi, quoi. Il y avait quand même un certain nombre de gens extrêmement cruels. Donc Puis d'autre part, c'était un bien commode moyen pour les gens qui n'étaient pas partis prenantes au gâteau, hein, puisqu'on à l'époque, le monde, au moins en théorie, avait été séparé entre l'Espagne et le Portugal, les autres, voilou, quoi. Mm-hmm. Donc c'était bien le bon moyen pour eux d'aller récupérer quelques trucs aussi, et donc de faire une guerre sans vraiment s'engager dans une guerre officielle, quoi. C'était pour eux aussi le moyen de récupérer des choses. Alors il y avait donc cette partie des Caraïbes a connu l'âge d'or, c'était 1520 à peu près, jusqu'à 1720, donc deux siècles, hein, avec des pics, des périodes un peu plus...
Des vagues.
Des vagues, absolument. Alors, c'est quand même symptomatique, hein, puisque le Nouveau Monde est découvert en 1492. En 1520, on commence vraiment à avoir une activité très forte de piraterie. Ça veut dire que dès qu'il y a eu de l'argent, très rapidement, les gens sont venus pour essayer d'en profiter au maximum. Donc, on imagine toujours, surtout aujourd'hui, le pirate sur mer, hein, avec une jambe de bois, ce qui est d'ailleurs est historiquement un petit peu faux, parce qu'aller se balader sur un bateau avec une jambe de bois et un crochet en fer, en plus, c'est quand même pas évident pour la manœuvre.
Hein, c'est pas évident tous les jours.
Ouais. Alors, quand en plus on a un perroquet sur l'épaule, ça doit pas être simple pour faire la manœuvre. Donc, bien souvent, il y avait effectivement des blessés. Souvent, les gens mouraient de leurs blessures parce qu'il n'y avait quand même pas une médecine comme aujourd'hui. Mais ceux qui restaient et qui étaient infirmes, bon, ils restaient à terre. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure quand on parlera plus de la vie quotidienne, l'organisation des pirates. Donc il y avait finalement des foyers qui étaient des foyers essentiellement une activité à partir de bateaux pirates qui allaient chasser les galions ou les bateaux qui passaient par là. Il y avait aussi une activité terrestre, c'est-à-dire que les Espagnols rassemblaient l'or dans un salon de places fortes, Maracaibo ou d'autres places fortes de ce type-là, la Veracruz. Et donc les pirates s'organisaient et faisaient des expéditions terrestres. Donc ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il y a une grosse activité qui s'est développée d'activité terrestre. Et notamment dans la région du Panama. Il n'y avait pas le canal à l'époque, bien sûr. Hein. Donc il fallait traverser l'isthme du Panama et les pirates et les flibustiers s'étaient mis d'accord avec des Indiens qui leur avaient montré les routes pour aller de l'autre côté, sur le côté Pacifique, ce qu'on appelait la mer du Sud à l'époque, parce que les villes là-bas étaient tout aussi riches, hein, le Pérou notamment, et moins gardées, moins fortifiées que ne pouvait être la côte atlantique, où là on les attendait. Quoi, hein. Donc ils ont fait des expéditions, notamment une en 1694, où il y a eu 1100 pirates qui se sont mis ensemble pour aller essayer de récupérer tout ce qu'ils pouvaient sur la côte du Pérou. Donc ils ont traversé l'isthme du Panama à pied, hein, ou en pirogue, et ensuite donc ils se sont servis. Ils ont ramené assez peu de choses, hein, parce que finalement il y a tous ceux qui se sont perdus en route. Alors il y en a qui sont descendus par le détroit de Magellan et puis qui ont fait naufrage parce que c'est pas des parages très très simples. Il y en a qui ont retraversé la jungle et puis qui se sont perdus. Et puis ceux qui sont rentrés, ils se sont battus entre eux, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choses. On pense qu'il y a à peu près un tiers des richesses qu'ils ont pillées qui finalement est arrivé, je vais dire, à bon port, enfin en tout cas dans leur repère, quoi. Le reste ayant été dilapidé, perdu, etc., etc. Donc c'était quand même quelquefois des forces relativement importantes, relativement lourdes, qui savaient s'organiser, au moins pour une opération qui pouvait durer quelques mois quand même, hein, parce que pour aller depuis l'isthme du Panama, depuis la ville de Panama, pour aller jusqu'au Pérou, il fallait quand même quelques mois. Hein, donc ce n'était pas une petite
balade.
Une petite opération. Il y a une chanson qui dénote un petit peu l'état d'esprit, hein, de ces gens qui s'appelle Le Forban. Donc,
Le Forban. Alors, le juste Forban. Une petite question, encore une fois, Internet. Ouais, ouais. Donc, on parlait des Caraïbes. On me demande, est-ce que vraiment Jacques Sparrow a vraiment existé?
Non.
Non.
C'est l'archétype ou c'est l'assemblage de plusieurs individus, hein, mais je pense pas qu'il est véritable. En tout cas, sous la forme où il est présenté, quoi. Hein, je pense pas qu'il ait effectivement existé. Il devait y avoir un gars qui devait s'appeler Sparrow quelque part, c'est sans doute, hein. Mais tel qu'il est présenté par Disney, non, c'est quand même très largement romancé, éloigné de la vérité, quand même.
Hein. D'accord. Donc, glou 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 glou, c'est dans l'eau, hein. Allez, le Forban.
Moi, Forban, que m'importe la gloire, les lois du monde et qu'importe la mort. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Oui, Livre d'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai pu conquérir. Si sur les flots j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un forban doit mourir. Peut-être on m'a dit de barque étrangère, mon corps un jour servira d'étendard. Et tout mon sang rougira la galère, aujourd'hui fête et demain le bazar. Allons esclaves, allons de vous mon bras, vivons la vie, le vin à grand pot. Aujourd'hui fête et puis demain peut-être, ma tête ira s'engloutir dans les flots.
Acquitté, femme gentille, sous tes baisers brûlant d'amour. Plaisir bataille, vive la canaille, je vois, je chante et je fume tour à tour.
Peut-être un jour par un coup de fortune, je saisirai l'or d'un beau galion. Riche à pouvoir vous acheter la lune, je m'en irai vers d'autres horizons. La respecter tout comme un gentilhomme, moi qui ne suis qu'un combat, qu'un bandit. Je pourrais comme le fils d'un roi, tout comme mourir peut-être dedans un bon lit.
Qui femme gentille, sous tes baisers.
L'organisation entre pirates, c'était pas simple ça.
Non, c'était pas simple et en même temps, il y avait des conditions qui faisaient qu'ils avaient intérêt à se mettre d'accord. On parlait de ces 1100 qui ont été se balader comme ça dans la jungle pour aller essayer de piller le Pérou. Ça se faisait pas tout simplement, hein. Donc il fallait effectivement et des chefs et une organisation rigoureuse. Mmh. Et puis surtout pour chacun des individus, la possibilité ou l'espoir qu'ils allaient en retirer quelque chose. Hein. Alors il faut quand même garder un peu en perspective que la vie sur les bateaux, quel que soit le type de commandement, j'allais dire que ce soit des bateaux classiques, des bateaux de guerre, des bateaux de corsaires ou des bateaux de pirates, la vie était quand même pas tout à fait simple et tranquille, hein, et c'était extrêmement difficile. Sur les bateaux de guerre notamment, il y avait une discipline qui était extrêmement, extrêmement dure. Les punitions corporelles étaient très, très fréquentes. Mm-hmm. La peine de mort était prononcée assez facilement. Hein. Quand quelqu'un désobéissait, c'était assez rapidement la pendaison ou on le passait par-dessus bord. Ou on allait l'abandonner sur une île déserte, hein, après lui avoir coupé le nez et les oreilles, par exemple, hein, histoire de faire bonne mesure. Donc, c'était quand même déjà un monde très, très cruel. Donc, ce qui veut dire que le monde des pirates ne changeait pas grand-chose de ce point de vue-là. Par contre, c'était un monde beaucoup plus égalitaire, puisque il n'y avait pas véritablement de hiérarchie aussi forte. Le chef était souvent quelqu'un qui était reconnu pour sa valeur, pour ses qualités marines, etc. Mm-hmm. Et il y avait toujours une sorte de contre-pouvoir, qui était souvent le quartier-maître, qui c'est celui qui s'occupait de commander les hommes, qui avait un droit de veto sur ce qui se passait, enfin, en tout cas dans un certain nombre de cas. Mm-hmm. Et donc il y avait toute une égalité qui se faisait, qui se mettait en place, en relative bien sûr, mais en tout cas une certaine égalité. En plus, il n'y avait pas trop d'ordre autre que celui d'aller à l'abordage quand ils rencontraient une proie facile. Le reste du temps, ils étaient relativement libres quand même, hein, de leurs actions. Et enfin, ce qui semblait être la règle, c'est que s'il y avait un partage du butin, le commandant ne prenait jamais deux que deux fois plus, enfin jamais plus que deux fois ça, que deux parts, plus que deux fois la part des autres.
Ah oui.
Donc c'était relativement, parce que autrement les autres marchaient pas, tout simplement.
Hein, bah oui.
C'était pas du tout parce qu'il avait le grand cœur, hein, ou qu'il voulait simplement parce que les autres y allaient pas. Il y a un flibustier, enfin un chirurgien de la flibuste, comme on l'appelle. Alors chirurgien, c'était les barbiers hein, à l'époque. Hein, c'est pas les chirurgiens qu'on les connaît aujourd'hui. C'était les gens qui maniaient le rasoir. Donc ils faisaient aussi de la petite chirurgie ou de la grosse d'ailleurs. Hux Merlin, qui est un Hollandais, a écrit ses mémoires et il raconte notamment comment se faisaient les partages et ils appelaient ça une chasse-partie, c'est-à-dire qu'ils se mettaient d'accord sur, d'une part, qui recevait quoi, hein, donc le simple matelot, il recevait une part, le quartier-maître une part et demie ou deux parts, etc. Et surtout, ils se mettaient d'accord au préalable sur ce que touchaient les éventuels infirmes, c'est-à-dire que un doigt, ça, c'était 5 louis d'or. On perdait un bras, c'était une certaine somme. Mm-hmm. On perdait une jambe, on avait droit à un esclave parce que bon, on n'arrivait plus trop à surveiller ses propres besoins. Donc il y avait une sorte de mutuelle, d'assurance, qui se mettait en place, sachant qu'encore une fois, ceux qui étaient blessés, bon, c'était pour eux relativement difficile parce que d'une part ils étaient mal soignés, puis d'autre part les conditions étaient extrêmement difficiles dans ces conditions.
Corsaire, flibustier, boucanier, pirate et autres forbans. On retrouve Gégé tout de suite après ces messages.